Bonjour à tous, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu sur la foi. C'est un sujet vraiment vaste et essentiel. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que c'est peut-être un point faible chez l'être humain. C'est écrit à plusieurs reprises, c'est Jésus qui le dit à ses disciples pourtant qui le suivent, gens de peu de foi. L'incrédulité nous est naturelle. Croire en l'invisible, croire en Dieu, représente vraiment une difficulté pour chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs le sujet qui a étonné le Seigneur. Dans l'Évangile, c'est le Seigneur qui a souvent étonné ceux qui l'écoutaient. Mais il a été une fois, lui, le Seigneur, étonné. Quand ? À l'occasion de la foi d'un païen, de la foi du centenier romain, qui demandait grâce, une guérison à distance. Le Seigneur se propose d'aller chez lui pour guérir son serviteur. Mais il envoie une délégation de dire qu'il n'est pas digne que Jésus entre sous son toit. Et il explique, il est un petit officier, il a des supérieurs au-dessus de lui, mais bien qu'il soit ce petit officier, il peut ordonner à ses subordonnés, et sa parole est suffisante pour que les gens lui obéissent, à cause de son petit grade. Alors il dit, toi tu es le Seigneur, dis un mot, et cela suffira. Et là, il est écrit que Jésus a été étonné de cette foi qu'il ne l'a même pas trouvée en Israël. Jésus a été étonné de la foi de cet homme. Parce qu'effectivement, d'une façon générale, Jésus a beaucoup dû supporter les doutes, l'incrédulité. Même Pierre qui ose marcher un peu sur les eaux très vite s'enfonce. Après la tempête apaisée, Jésus leur dit, où est votre foi? Elle est passée où, votre foi? Alors oui, cet homme l'a étonné. Et je crois que Dieu aime la foi. C'est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu aime trouver la foi dans le cœur de quelqu'un. Et cela étonne même le Fils de Dieu. Non, nous n'arriverons pas à étonner le Seigneur par nos prouesses, par nos mains, par tout ce que nous arriverions à faire ou à concevoir. Non, nous n'étonnerons jamais le Seigneur de ce que nous pourrions faire, mais nous pourrions l'étonner et le réjouir par la foi que nous pourrions manifester dans notre vie avec lui. Amen. Parfois, nous essayons d'étonner Dieu en pratiquant le bien. Mais vous savez, le meilleur d'entre nous, il est comparé à un buisson d'épines. Et nous avons du mal à changer de logiciel. Déjà, avant notre conversion, nous pensions que pour s'approcher de Dieu, il fallait être bien. Et nous continuons encore parfois à penser que le plus important, c'est d'être bien. Non, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Amen. Avant d'être meilleur, croyons. La priorité dans la vie chrétienne, c'est de croire et d'avoir une foi qui se développe, qui honore le Seigneur. Et nous deviendrons meilleurs seulement après que cette foi se soit développée. Mais nous en parlerons. Alors, est-ce qu'il s'agit de quantité? Lisons dans Luc chapitre 17, verset 5 ensemble, s'il vous plaît. Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Alors, les apôtres abordent la foi sous l'angle de la quantité. Augmente, donne-nous du stock, des tonnes de foi. La quantité augmente. Le Seigneur ne va pas sur ce terrain-là. Sa réponse est déroutante. Il dit, c'est pas une question de quantité, parce que si vous aviez un gramme de foi, et c'est peut-être même pas un gramme, parce que je ne sais pas, un grain de sénevé, combien ça pèse. Mais ça pèse pas lourd. Alors le Seigneur leur répond en disant, c'est pas la tonne qu'il vous faut. C'est pas la quantité. Parce que si vous aviez un tout petit peu de la foi, ce serait suffisant. Ça nous fait réfléchir. Il y a un autre texte qui lui est parallèle. On va le lire, Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc quand le Seigneur parle de la foi, on se sent quand même assez éloigné de ce qu'il peut dire. Et cela donc remet ce sujet dans toute son importance pour nous, bien-aimés. Nous manquons de foi dans notre vie chrétienne. Alors est-ce de la quantité? Bon, Segon ici a traduit comme cela. Il semblerait, une autre traduction le rend différemment, que quand les apôtres viennent vers Jésus, il dit « augmente-nous notre foi ». Et Jésus leur répond « si vous aviez la foi ». Alors je crois qu'en réalité, il y a notre foi humaine. Il y a des gens qui disent « moi j'ai toujours cru en Dieu, même avant d'être né de nouveau ». Donc c'est une foi religieuse, c'est une foi humaine. C'est la foi qui peut venir, et vous aussi peut-être, c'est votre cas. Moi j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Mais peut-être vous avez toujours cru en Dieu depuis que vous étiez enfant. C'est votre foi. Mais il y a la foi. Celle qui est le fruit du Saint-Esprit. Dans le fruit du Saint-Esprit, il y a dans Galates 5, 22, la foi. Et ce dont nous avons besoin, c'est peut-être pas d'augmenter en quantité notre foi, mais c'est de vivre la foi par la puissance du Saint-Esprit. C'est une foi divine. C'est une foi donnée que nous recevons. Ce n'est pas une foi augmentée et travaillée par nous-mêmes. Et là, nous ne sommes pas sur le même plan. Et quand je parle de la foi, je voudrais bien que nous puissions les uns et les autres connaître cette foi que Dieu donne. Cette foi dans notre relation avec lui, cette foi qui dépend de la communion que nous avons avec lui. Amen. Et là, c'est autre chose. Vous pouvez croire que Jésus revient parce que vous adhérez à cette vérité, vous trouvez que c'est juste parce que c'est dans la Bible, mais c'est assez froid. On peut croire que Jésus revient sans vraiment l'attendre. Par contre, la foi par l'Esprit, c'est différent. Je crois qu'il revient bientôt, peut-être demain, et je l'attends. Ça, c'est une foi différente. C'est une foi renouvelée par l'Esprit, une foi vivante. On chante parfois un cantique, « Ma foi est vivante dans un Dieu vivant ». Eh oui, c'est le Dieu vivant qui donne vie à la foi. Amen. Alors, j'aimerais parler quelques instants ensemble sur la foi et la réalité. On va lire dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3. 1 Jean, chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage. On était là, on est des témoins, et nous vous annonçons la vie éternelle qui pourtant était auprès du Père, très loin, mais qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu de nos oreilles, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Amen. Très important ce que dit Jean ici. C'est un vieillard, c'est le dernier des apôtres en vie. Et ce qu'il dit, ça a du poids. Et le dernier survivant des témoins explique bien à l'Église que notre foi repose sur une réalité historique. Jésus n'est pas un mythe, il n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire bien conçue. Jean dit, et il emploie le pronom personnel, nous. Il n'est pas que lui, parce qu'encore, s'il était tout seul, on pourrait douter. On pourrait dire, il s'est fait un film. Mais non, nous, ils étaient 12 et pas 12 apôtres, c'est quand même pas mal. Après la loi, il suffit de 2 ou de 3 témoins. Là, il y a 4 fois plus de témoins. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Notre foi repose sur quelque chose qui s'est vraiment passé. Amen. Notre foi ne fabrique pas ce que nous croyons. Notre foi s'appuie sur la vérité de la venue de Jésus-Christ. Tout cela était auprès du Père, c'est-à-dire que tout cela n'avait pas encore de concrétisation, de réalisation, mais la foi chrétienne, ce n'est pas une foi en quelque chose d'éloigné, d'abstrait, c'est une foi en quelque chose de réel, qui s'est vraiment passé. Alléluia. Jésus est vraiment venu parmi nous, et c'est la vie éternelle qui a été manifestée. On peut lire aussi dans Luc chapitre 1er, si vous le voulez bien, on va constater comment cet évangile a été écrit. Et c'est intéressant parce que nous croyons en l'inspiration verbale de l'écriture, c'est-à-dire nous croyons que tous les mots dans le texte grec de la parole de Dieu ont été inspirés du Saint-Esprit. Mais l'inspiration ne s'oppose pas forcément avec un travail intellectuel, puisque nous le verrons, Luc a effectué un travail d'historien pour composer son évangile. Luc, chapitre 1er, verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, donc les apôtres, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Alors, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, et il a compilé sa matière d'une manière suivie, c'est-à-dire plutôt chronologique, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. L'évangile de Luc a été travaillé, le fruit de recherche, de compilation, de recueil, de différents témoignages, afin que cet homme, et c'est extraordinaire quand même quand on voit l'évangile de Luc, a été écrit que pour une personne. Il avait l'amour des âmes, Luc, quand même. Écrire 24 chapitres d'un si bel évangile à un seul destinataire. Nous aimons beaucoup faire les choses pour être utiles au plus grand nombre. Par exemple, un chrétien va composer un cantique et il aimerait bien faire partie du top 50 chrétiens. Mais tout ça, c'est un peu charnel. Nous servons le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas envie d'être connus et célèbres. Et Luc, lui, s'est donné tout ce travail pour une seule personne. On aurait peut-être eu envie de dire, Luc, c'est quand même exagéré, pour une seule personne. Mais n'avons-nous pas coutume de dire que le Seigneur serait mort pour un seul pécheur? Alléluia. Et Luc, donc, a fait ce travail de compilation et avec de l'intelligence pour faire son évangile, afin que nous soyons certains. Merci Seigneur. C'est vrai que la parole de Dieu, elle est inspirée de l'Esprit. Mais la parole de Dieu relate des faits authentiques qui se sont vraiment passés. Et notre foi s'appuie sur une réalité. Alléluia. Loin de toute mythologie. Alors ensuite, je dirais que notre foi s'appuie donc aussi, surtout sur l'Écriture. On peut le lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Amen. Le fondement de notre foi, c'est l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est le Nouveau Testament. On vient de lire que Luc s'est appuyé sur l'enseignement des apôtres pour recueillir tous leurs témoignages et les mettre par écrit, afin qu'il y ait une trace durable de l'enseignement des apôtres. Notre fondement, c'est l'enseignement des apôtres. C'est donc le Nouveau Testament qui a recueilli l'ensemble de l'enseignement des apôtres, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Dans Jude, verset 3, il est dit qu'il nous faut combattre pour la foi transmise aux saints, une foi pour toutes. Ça veut dire que, ici, dans ce passage, la foi, c'est tout l'enseignement chrétien du Nouveau Testament. Et cette foi, elle a été transmise aux saints, une foi pour toutes. Ça veut dire que cette foi, elle a été définie, délimitée, et que nous n'avons plus à essayer de trouver quelque chose de supplémentaire à ce que le Nouveau Testament a enseigné sur la foi. Dans Jude, verset 3, c'est bien écrit, « La foi transmise aux saints, une foi pour toutes. » Voilà pourquoi il est très important que les uns et les autres, dans tout ce que nous croyons, ou tout ce que nous entendons d'expérience que les autres peuvent faire, il faut toujours que ce que les autres disent de leur foi ou de ce que vous, vous vivez dans votre foi, ce soit en accord avec la parole de Dieu. La foi, elle est biblique. La vraie foi, elle est biblique. Et pour certainement nourrir votre foi d'autre chose que de vos conceptions personnelles, religieuses, c'est de lire la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une différence entre notre foi et la foi qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu, qui vient de l'Écriture. Nous avons tous, quelque part, une tendance à avoir notre foi à nous. Mais est-ce que ce que nous croyons est correct par rapport à la parole de Dieu? En Israël, il y avait des hauts lieux, en plus du temple de Jérusalem. Et sur ces hauts lieux, ce n'étaient pas toujours des idoles païennes qui étaient célébrées. Il y avait aussi des hauts lieux où c'était l'Éternel. C'était le vrai Dieu. Mais chacun faisait à sa sauce son évangile sur le haut lieu. Mais Dieu disait, le seul sanctuaire centralisé, légitime, où Dieu fait résider son nom, c'est le temple de Jérusalem. Comme pour dire qu'il y a toujours existé des hauts lieux, alors on dirait aussi aujourd'hui des sites internet ou des groupements, des groupuscules, des groupes de maisons. Il y a toujours eu des hauts lieux où les gens adaptent l'enseignement biblique à leur point de vue. Ils sont parfois même évangéliques. Mais notre foi, c'est pas forcément la foi biblique. Et nous avons réellement besoin d'avoir du discernement par la connaissance de la parole de Dieu pour faire la différence entre la foi religieuse, parfois même idolâtre, même au nom de Jésus-Christ, et la foi biblique, la foi unique, puisqu'il est écrit, il y a une seule foi. Amen. Une seule foi. Alors, on pourrait parler de succinctement la foi, la raison et l'émotion. Nous avons tendance peut-être dans nos milieux à faire de l'anti-intellectualisme. La foi ne s'oppose pas à l'intelligence. Justement, cette foi biblique nous montre et nous présente quand même des livres sapientiaux, c'est-à-dire les livres de la sagesse. Proverbes, Job, Ecclésiaste, les psaumes dans une certaine mesure. Il y a des livres dans la Bible qui ont trait à l'intelligence dans la foi. Des livres entiers. La foi et l'intelligence ne s'opposent pas. Bien au contraire. Par contre, je suis d'accord avec vous, la foi dépasse l'intelligence. Alléluia. Il faut que notre intelligence soit soumise à la foi. Il faut que nous réfléchissions dans la foi, sous la foi. Amen. Mais dans notre foi, il ne nous est pas interdit d'essayer de comprendre, de s'approfondir. Bien au contraire, l'Écriture nous invite à avoir une foi intelligente, à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, la profondeur des textes de la parole que nous lisons. Que de fois, quand nous lisons l'Écriture, parfois, après l'avoir lu, on sent qu'il y a quelque chose à mieux comprendre, mais que cela nous échappe. Seigneur, donne-moi ta sagesse, afin que mes yeux s'ouvrent et que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Donc la foi et l'intelligence, ça ne s'oppose pas, mais notre intelligence doit se soumettre à la foi. Hein? C'est-à-dire que nous, les Français, nous sommes raisonneurs, analystes, ayons le sens de la critique, et même avec la prédication aussi, vous pouvez être comme ça. Mais il faut quand même faire attention aussi. Parce que si à la fin, on décortique tout, on trie tout, on est méfiant à cause de sa tête, ben là j'ai peur que l'intelligence prenne le dessus sur la foi. L'Écriture dit qu'il nous faut recevoir avec douceur la parole de Dieu. Avec douceur, c'est-à-dire sans contradiction, sans contradiction intellectuelle aussi. Parce que dans toute prédication, on pourra toujours dire, parce qu'une prédication ne peut pas dire toute la vérité. Une prédication ne dit qu'une partie de la vérité. Mais d'ailleurs, même dans la Bible, c'est comme cela. Un livre de la Bible ne pourra pas dire toute la vérité. Il faut lire toute la Bible. C'est toute la Bible qui va nous donner un ensemble de toute la vérité. Mais il y a des livres dans la Bible qui sont orientés volontairement pour nous apprendre quelque chose. Donc, il n'y a jamais quelque chose de complet. Mais ayons l'humilité dans la foi de recevoir. Si votre intelligence vous rend orgueilleux, au point de ne plus trop écouter parce que vous êtes toujours en train de contredire, de contrebalancer, de dire « oui, mais il y a ça aussi », alors votre intelligence prend le dessus sur votre foi et votre foi ne sera pas nourrie. Vous allez vous appauvrir. Et je pense que quand on fonctionne bien, ça a un bon résultat. Quand il y a un mauvais résultat, c'est qu'on ne fonctionne pas bien. Je pense qu'on peut être intelligent et soumis. Intelligent et humble. Intelligent et recevoir la parole de Dieu. Alléluia. La foi et l'intelligence. La foi et l'émotion. J'en ai parlé quelque peu dimanche dernier. Tout ce en quoi nous croyons est réel. Nous n'avons pas besoin de 1000 confirmations. Nous n'avons pas besoin de ressentir tous les jours que Dieu nous aime. Alors je ne sais pas si vous êtes comme cela. Pendant des années, j'étais plutôt comme cela. Et je demandais souvent à ma femme, « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» J'avais besoin. Oh, je sais d'où ça venait. Ma famille, mon enfance, même qu'on est chrétien, vous savez, on traîne encore parfois des casseroles. Hein, c'est pas just married, mais c'est just converti. je viens juste de me convertir et j'ai encore des casseroles. Et parfois, ça dure même quelques années. Si on n'a pas cette intelligence dans la foi, on croit au Seigneur sans vouloir être dans le déni, sans vouloir accepter qu'il y a des choses que le Seigneur doit reprendre, etc. L'intelligence dans la foi va nous délivrer de beaucoup de choses. Alléluia. Alors, j'avais cette tendance, j'avais besoin d'être rassuré. Et je me suis rendu compte que je faisais la même chose avec Dieu. Seigneur, montre-moi que tu es avec moi. Agis. Oui, mais à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de demander à Dieu qu'il se prouve tous les jours. Je suis qui pour demander ça à Dieu? C'est pas à Dieu de s'adapter à mes pathologies, à mes problèmes. C'est à moi à me laisser transformer par lui et à vivre par la foi. Et non pas par le ressenti. Parce que si vous avez besoin régulièrement de confirmation, c'est un jeu sans fin. Vous aurez toujours besoin de confirmation. Mais je l'ai expliqué, peut-être ça vous a semblé une évidence tout à l'heure, que la foi repose sur des faits. C'est peut-être une évidence, mais concrètement, si vous avez régulièrement besoin que Dieu vous prouve qu'il vous aime, ou qu'il vous dise qu'il vous aime, ou, comme je parle de l'émotion, que vous ressentiez qu'il vous aime, ben vous ne vous appuyez pas sur ce que Christ a réellement fait. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc, nous avons eu la preuve de son amour. Amen. Nous n'avons plus besoin d'une autre preuve. Y a-t-il une preuve plus grande que celle de la croix? Je ne pense pas. Amen. Maintenant, je peux comprendre que parfois, dans la vie chrétienne, on demande au Seigneur d'être rassuré. Bien sûr. Mais je parle ici d'un mode de fonctionnement, de quelque chose de pathologique, de trop régulier, de trop récurrent, qui montre qu'on manque vraiment de cette foi, qui s'appuie sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, l'émotion, attention, parce que des fois vous allez le sentir et des fois vous allez rien sentir. Alors c'est pas comme l'intelligence, l'émotion n'est pas mauvaise, nous sommes des êtres émotifs, il y a de l'émotion dans la vie chrétienne, c'est tout à fait normal, mais elle doit être à sa place, sous la foi, comme l'intelligence. Je crois que ce que Dieu veut dans l'être humain, c'est d'abord que dans sa vie, ce qui le domine, c'est la raison, ensuite l'émotion, et enfin le physique, le corps. Ça c'est l'ordre normal, créationnel de Dieu. L'être humain qui refonctionne bien par la conversion, eh bien, il aura cet ordre. D'abord, la raison, ou l'intelligence, l'émotion, et le corps. Mais ça, c'est que d'un point de vue biblique, parce que même la raison, l'émotion et le corps, ben, le summum, c'est pas la raison. Au-dessus, c'est la foi. Alléluia. Et nous devons vivre ces trois dimensions de notre personnalité, sous la foi, dans la foi. Amen. Là, c'est quelque chose dans lequel il faut être comme remodelé, réorganisé. Alors, j'aimerais vous parler maintenant du sujet de la foi. Parce que ce qui compte, c'est pas de croire. Ce qui compte, c'est de croire en Jésus. Amen. Parce que croire, ça, vous le voyez dans les films américains. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le film Pôle Express. Dedans, il y a une jeune fille, et elle s'appelle, je crois, la foi, où on lui donne à la fin un billet en or, c'est la foi. Et la conclusion de beaucoup de films américains, et c'est la philosophie américaine, c'est que dans la vie, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, il faut être positif, il faut croire en soi. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas se laisser accabler et décourager. Mais il faut persévérer en croyant en soi-même. Mais ça, c'est pas du tout la foi. Pas du tout. Quand je vous parle ce matin de la foi, je ne vous parle pas de croire en vous. Je sais que la psychologie enseigne qu'il faut avoir confiance en soi. Et il y a une certaine réalité dans cela. Mais en réalité, nous ne sommes pas appelés à croire en nous. Jamais Jésus a dit « Ayez confiance en vous ». Jamais il n'a dit « Croyez en vous et croyez en Dieu ». Il a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Dans Jean. Amen. Parce que nous, on a compris, grâce à Dieu, qu'on est des pécheurs, qu'on est mauvais et qu'on n'est pas fiable. Je suis désolé. Mais malheur qu'il se confie en l'homme. Et en l'homme, souvent on le dit pour les autres, mais malheur qu'il se confie en l'homme en lui-même aussi. Malheur qu'il se confie en l'homme, heureux qu'il se confie en l'Éternel. La solution pour être bien dans sa tête, c'est pas d'avoir confiance en soi, de fabriquer une foi toute humaine et humaniste. Mais la solution, c'est d'avoir foi en Dieu et en Jésus-Christ qui va nous relever et nous donner beaucoup d'assurance, mais qui ne reposeront pas sur nous, mais sur ce qu'il a fait. Pour nous, nous savons que nous sommes mauvais, mais nous savons aussi que nous sommes sauvés parce que Christ nous a aimés. Alléluia. La foi en la foi, c'est pas non plus une bonne solution. La méthode Coué. Il faut que tu crois, il faut que tu crois. Au début de ma conversion, j'avais lu un bouquin de Yong Gicho. Et dedans, il disait notamment qu'il affichait partout dans son bureau ses sujets de prière. Pour qu'il puisse toujours les voir, les visualiser. Et comme ça, cela s'accomplirait. Alors en gros, j'avais lu, si tu veux vélo rouge, ben pense vélo rouge, affiche vélo rouge, rêve vélo rouge, prie vélo rouge et tu auras le vélo rouge. Ça c'est la foi en la foi. Je crois pas en ma foi. Je crois dans le sujet de ma foi. Je crois en Jésus-Christ. Amen. Et ça c'est très important parce que vous savez, des fois on se dit comme les apôtres, augmente-nous la foi. C'est que quelque part, on croit dans la quantité de notre foi. C'est qu'on croit en notre foi. Et ça m'a mis des années pour comprendre cela. Pourtant, je le savais intellectuellement. Mais ça m'a mis des années pour réaliser dans l'œuvre de Dieu que quand je prie pour quelqu'un, ça ne dépend pas de ma foi. Mais ça dépend de Jésus-Christ. Quand je prie pour quelqu'un, c'est le Sauveur qui agit. C'est pas ma foi en Jésus, c'est Jésus qui sauve. Alléluia. C'est tout simple. Mais je vous assure que parfois on se fait bien du mal pour rien en se disant « j'ai pas assez de foi ». Mais c'est pas le sujet. Si tu pries dans le Seigneur, t'as pas besoin de croire forcément et de t'obliger à penser que ça y est, tu l'obtiens, parce qu'on leur cite des versets. Si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le recevrez. Alors on se force, on se fabrique quelque chose. Mais non. Croyons en Jésus-Christ de plus en plus. Laissons-le agir. À Dieu soit la gloire. C'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Amen. C'est très beau quand Pierre, les gens s'attroupent autour de lui, ils le regardent. Mais pourquoi vous me regardez? C'est pas par ma piété que cet homme a été relevé. C'est par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jamais quelqu'un n'a été guéri grâce à nous. C'est toujours le Seigneur qui guérit. Amen. Et qui sauve. Ne pas avoir la foi dans notre foi, la foi en nous-mêmes, ou se forcer à être américain, c'est-à-dire positif, C'est avec un peu d'ironie que je parle comme cela. Mais vraiment avoir la foi en Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vient de la parole de Christ. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 2, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, elle amène à la perfection. Amen. Ce texte nous dit que Jésus est l'initiateur et le développeur de la foi. Et c'est là toute la différence entre la foi religieuse et la foi qui vient de Jésus. C'est mon expérience personnelle, ça n'est pas l'expérience de tout le monde, et heureusement, j'ai toujours été athée. Mais le jour où je suis entré dans une église et que la prédication a révélé toute ma vie, ce jour-là, Jésus a initié la foi. Avant d'entrer dans cette vieille salle, plutôt pourrie même, bon bref, j'étais athée. Quand je suis ressorti de cette salle, je savais que Dieu existe. Je n'avais eu aucune explication, aucune démonstration, aucune argumentation. Mais dans la réunion, Jésus a initié la foi, a donné la foi dans mon cœur. Alléluia. Alors vous pourriez dire, ah mais ça c'est lui. Non. Je sais que c'est plus confus pour les enfants de chrétiens qui ont toujours cru. Mais à un moment donné, dans notre vie à tous qu'ils sommes régénérés, Jésus a initié la foi. Dieu soit béni. Et il nous a sauvés, non seulement par son sacrifice, mais on pourrait dire, oui, mais j'ai cru, j'ai eu la foi pour. Mais même la foi qu'on a eue pour, c'est Jésus qui l'a initié. C'est vraiment par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi que Jésus donne. Alléluia. Jésus initie la foi. C'est le démarrage. Et il la développe, il est le développeur, il est le réalisateur de la foi. Dieu soit béni. Et il faut avoir les regards fixés sur lui pour que tout au long de la vie chrétienne, cette foi mûrisse, grandisse, se développe. Ah, que Dieu nous fasse la grâce en Jésus-Christ de grandir dans la foi, non en quantité, mais de grandir dans cette foi de Jésus-Christ qui nous permet de plus en plus de voir. Parce que la foi, c'est les yeux dans la vie chrétienne. Il est écrit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. La foi, ça va nous rendre réel tout ce qu'on a du mal à comprendre, à saisir. La foi, ce sont les yeux, ce sont les mains. La foi, c'est le sens spirituel qui nous permet de vivre les choses de Dieu. Alléluia. Alors cette foi, elle doit certainement encore se réaliser. Amen. Par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais là encore, ce n'est pas nous qui réaliserons la foi. C'est le Seigneur qui la réalisera. Hein? La réalisation de soi-même, c'est psychologique, mais ce n'est pas biblique. Le Seigneur nous a prévenu que quand il reviendra, il n'y aura pas beaucoup de gens qui croiront. Trouverai-je la foi sur la terre ? Que ce sera une denrée rare. Alors j'aimerais maintenant peut-être m'arrêter sur la foi comme moyen de vivre. Vous voulez bien lire dans Habacouc chapitre 2 verset 4 avec moi, on va lire les quatre références qui font allusion à ce texte de base dans l'Ancien Testament. Habacouc chapitre 2. Chapitre 2 verset 4. Alors, ça va être répétitif, notre quatre lectures, mais c'est un peu volontaire parce que j'essaye parfois que dans certaines prédications, il y ait des choses qui puissent se mémoriser. Et si ce matin, vous pouviez retenir dans ce message que il n'y a que ce texte qui est répété trois fois dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose d'unique. Ce seul passage se trouve quatre fois dans la Bible. C'est unique. Et si Dieu se répète quatre fois dans l'Écriture, c'est parce qu'il y a là une importance toute particulière. Habacouc, chapitre 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ce texte est repris, lisons-le ensemble, s'il vous plaît, dans Romains, chapitre 1, verset 17. Romains. Chapitre 1er, verset 17. Parlant de l'Évangile, il dit « Parce qu'en lui, et révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, c'est ce qu'on vient de lire, le juste vivra par la foi. Donc c'est Habacuc 2.4 qui est répété, mais un peu modifié, c'est plus par sa foi, c'est par la foi. D'accord ? On continue. Galates, chapitre 3, verset 11. Galates 3, 11. Galates 3, 11. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce qu'il est dit, Habacuc 2, 4, le juste vivra par la foi. Et le dernier texte est dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Alors, qui ? Alors, est-ce que c'est encore Paul ou pas ? On a eu une conversation récemment sur le sujet. Les théologiens en ont. Qui a écrit l'épître aux Hébreux ? Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Habacuc, c'est quoi le contexte ? Un livre très intéressant, peut-être un jour on en fera l'étude. C'est un dialogue entre le prophète désorienté et Dieu. Parce qu'en fait, Dieu annonce à Habacuc qu'il va juger Israël. Ça va être un carnage. Mais il y a une promesse. Le juste survivra par sa foi. Vivra par sa foi, mais dans le contexte, on pourrait dire le juste survivra à ce jugement à venir par sa foi. Le salut par la foi. Et trois fois, dans le Nouveau Testament, cela est utilisé pour parler de la vie chrétienne qui doit être vécue par la foi. Amen. Donc c'est fondamental. Vous savez, vivre par la foi, c'est un des principes fondamentaux de la vie chrétienne. Souvent on a cette expression dans nos milieux, il a vécu par la foi. Ça veut dire que sans salaire, sans argent, il s'en est sorti. Dieu lui a fait grâce. Des fois c'est discutable, parce que parfois on dit oui, il a vécu par la foi, mais il y a eu des pasteurs qui ont vécu dans la misère par la foi. On n'est pas toujours juste, non plus. Parce que je ne crois pas que ce soit toujours à la gloire de Dieu que la vie par la foi fasse vivre certains hommes dans la misère. Ça, c'est un autre sujet. Mais, on dit, vivre par la foi, c'est vivre sans argent et s'attendre à Dieu. Quelque part, on a un peu cette idée que de vivre par la foi, c'est une vie aventureuse pour servir Dieu. Mais en réalité, ces textes qui nous parlent, mon juste vivra par la foi, ça ne fait pas allusion à quelque exploit accompli dans la vie chrétienne. Ce n'est pas non plus en rapport avec le service de Dieu, mais avec le salut, avec la façon de fonctionner en tant que chrétien. C'est pour la vie de tous les jours, c'est pour la vie quotidienne. Chacun d'entre nous, nous devons tous les jours vivre par la foi. Amen. Chacun d'entre nous, nous devons arrêter de vivre par les mérites de la loi. Parce que vivre par la foi, ça veut dire déjà pas par la loi. Amen. Quel est votre paradigme ? Quel est votre point de mire ? Est-ce que dans votre vie chrétienne, le plus important, c'est de changer ? C'est d'arriver à être meilleur ? Eh bien, je vais peut-être vous heurter. Vous vous trompez. Le plus important, c'est de croire. De continuer de croire, même quand on chute dans le mal, qu'on a des difficultés et qu'on est humilié. C'est de continuer à avoir les yeux sur Jésus et de dire, Seigneur, pardon, je te déshonore, mais je continue à croire que tu es mon sauveur. Je continue à croire que tu vas sanctifier ma vie. Il y a des choses en moi trop fortes, trop innées, trop attachées à moi. Je n'arrive pas pour le moment à changer. mais je crois que tu m'aimes quand même. Je crois que tu feras ce que je ne sais pas faire. Je sais bien que ça ne va pas se faire demain. Mais jusqu'à ce que tu me délivres, je continuerai de croire en toi. Alléluia. Ben ça, c'est vivre par la foi. Comprenez? Il faut que notre sanctification se vive par la foi. Si nous avons dans l'idée de la vie chrétienne qu'il y a la vie de sanctification et la vie de la foi en parallèle, on se trompe. Nous nous sanctifierons par la foi, pas par nos efforts. Seul, on va se débattre. Vous savez ce qui a été dit à Caïn? Le péché est tapis à ta porte. Résiste-lui, mal malheureux. On n'est pas meilleur que Caïn, vous savez. Si on est, nous, on doit résister au péché tout seul. Et je crois que ça, on n'y arrivera jamais. C'est qu'en nous confiant dans le Seigneur qu'on y arrivera. Alléluia. Il faut vivre tout ce que Dieu nous demande par le moyen de la foi. C'est ça que ça veut dire, le salut par la foi. Dans le salut, vous mettez sanctification, vous mettez service, vous mettez tout, tout ce qui est de la vie chrétienne. Le salut par la foi. Fonctionner par la foi. Gloire à Dieu. Par exemple, si vous avez tendance parfois à ne pas prier parce que vous vous trouvez moche, nul, et que vous vous éloignez de Dieu jusqu'à ce que vous ressentiez que vous pouvez peut-être recommencer à prier, ben, ça manque de cette vie par la foi en fait. Parce que par la foi, on peut s'approcher de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Etc, etc. Bon, je vais terminer, sinon je serai trop long, il y aura encore bien des choses à dire. On va terminer par Tite, chapitre 1er, verset 13. Tite 1, 13. Tite 1, 13. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. Alors, à propos des gens de cette région, des Crétois, de cette île, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Amen. Parlons de la foi dans l'Église, très courtement. La foi dans l'Église. J'en ai parlé un petit peu aussi la semaine dernière entre la foi personnelle et la foi communautaire. Si nous voulons avoir une foi saine, qu'est-ce que ça veut dire une foi saine? Une foi en bonne santé. Quelqu'un qui a un corps sain, c'est quelqu'un qui n'est pas malade et qui est en bonne santé. Une foi saine, c'est une foi qui n'est pas malade. Parce que la foi peut être malade. Elle peut être malade à cause de quoi? De toutes sortes de virus, de fausses doctrines, de mauvaises pratiques, de tout ce qui est dit sur Internet et ailleurs. La foi peut vraiment contracter des virus. À nous, on pense qu'on est fort, alors on regarde tout, on écoute tout, on est curieux, etc. Mais en réalité, la Bible dit, le sage se détourne du mal. Parce que tout ce qu'on regarde, vous savez, on pense qu'on est grand et fort pour faire le tri, mais il y a des choses qui peuvent passer. Un virus, ça s'attrape. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi saine? C'est une foi vécue dans l'Église. Si nous croyons seuls et si nous faisons nous-mêmes notre petite foi de notre côté, nous allons dévier. La foi se vit dans l'Église. Je sais que ce n'est pas trop notre culture, qu'on a mis fort l'accent sur l'expérience personnelle, la conversion personnelle. Mais nous avons le revers de la médaille. C'est qu'à un moment donné, chacun, pour chacun, ce qui compte, c'est ce qu'il vit avec Dieu, c'est ce qu'il croit. J'ai lu un livre très intéressant sur l'intelligence artificielle qui est utilisée dans les sites Internet. Et en fait, vous savez, sur Internet, vous ne trouverez pas la vérité. Vous trouverez votre vérité. Parce que l'intelligence artificielle analyse toutes vos données, là où vous êtes allé sur les sites, ce que vous recherchez. Et ensuite, même si c'est le même moteur de recherche qu'un autre, paraît-il que votre recherche ayant été déjà enregistrée et bien filtré par l'intelligence artificielle, vous allez être orienté vers ce que vous aimez. Parce qu'Internet, son but, c'est la consommation. C'est de vous garder le plus longtemps possible sur les sites. Et pour que vous restiez, il faut que ça vous plaise. Alors, tout est fait pour que on trouve qu'on a raison. C'est pour ça qu'il y a des complotistes et toutes sortes de choses. C'est que vous avez pris des chemins sur Internet qui ont été mémorisés. Et il sera, quand vous ferez une recherche, vous trouverez toujours la confirmation de ce que vous pensez, quasiment. Parce que sur tous les sujets, même bibliques, sur Internet, vous avez le tout et son contraire. Vous trouverez toujours de quoi, à la fin, dire « Ah ben j'ai raison. J'ai raison parce que je l'ai vu. » Mais ce qui doit faire autorité dans notre foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je voudrais vous poser la question, combien d'heures vous passez sur les sites chrétiens et combien de temps vous passez à lire la parole de Dieu? Ben, c'est simple. On est le plus influencé par ce à quoi on est le plus exposé. Si vous vous exposez le plus devant les écrans, ce sont les écrans qui vous guideront. Si par contre vous vous exposez le plus devant l'écriture, c'est l'écriture qui vous guidera. Amen. Alors, voilà. C'est pour ça, je sais qu'il peut y avoir de bonnes choses. Je l'utilise, Internet, hein, je ne suis pas un préhistorique. Hein. Mais je sais que c'est un danger et qu'il est de mon devoir de vous avertir. Parce que faut pas que votre foi soit malade. La foi doit se vivre dans l'Église. Et ici, il est dit, reprends-les sévèrement. Bon, ce n'est pas pour dire qu'il faut toujours faire ça. Mais l'idée, c'est l'Église est utile parce que dedans, on va être contredit. On va être rectifié. On va discuter avec des frères et sœurs. Peut-être des frères et sœurs ont le courage de nous dire, écoute, ça, je ne suis pas sûr que ce que tu me dis, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Ça ne nous plaira pas forcément toujours, mais ça nous sera vraiment utile. Salutaire. Alléluia, Dieu soit béni. Donc la foi dans l'Église. J'aurais voulu, mais peut-être que je reprendrai ce passage, lire avec vous l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 à la fin, pour conclure que la foi, c'est pas toujours être guéri, délivré et réussir. La fin de l'Épître aux Hébreux, on le lira prochainement dans le chapitre 11. C'est des gens pour obtenir une meilleure résurrection qui ont été torturés, sciés, qui n'ont pas obtenu la délivrance de leurs maux, parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux, la gloire éternelle. Alors je voudrais vous le dire. La foi, c'est ni croire, ni exiger que Dieu guérisse tous les chrétiens qui sont malades. Je crois en la guérison divine, mais j'y crois avec équilibre, avec modération. Il n'est pas biblique de dire que Dieu doit guérir tous les chrétiens. Il n'est pas biblique non plus de dire que Dieu nous délivrera toujours de toutes nos épreuves. Dieu utilise nos épreuves pour nous changer aussi. Amen. Et dans l'Épître aux Hébreux, vous avez dans ce chapitre 11, ceux qui par la foi ont vécu des expériences positives et ceux qui par la foi ont enduré des expériences négatives. Mais il n'y a pas les uns qui ont eu la foi et les autres qui ne l'ont pas eu. Cruel de dire, t'es pas guéri parce que t'as pas la foi. Oui, 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 oui. Et c'est pas vrai de toute façon. C'est pas vrai. Non. Le chemin de chacun est différent. Ce qui compte, c'est qu'ensemble, nous parvenions à ce qu'il y a le meilleur, la meilleure résurrection. Parce que notre espérance, elle est dans les cieux. Alléluia, Dieu soit béni. Amen. On pourrait chanter un cantique pour prendre la scène ensemble, s'il vous plaît. JP, merci.